Chapitre 3e, le joyeux capitaine. Ce soir-là, comme après dîner, je fumais tranquillement mon cigare dans un des cafés des boulevards, me demandant si, avant de passer au journal, je n'irais pas faire un tour dans un des cinémas des environs, le roi des détectives parut et vint s'asseoir à côté de moi selon son habitude. Devinant ma question en mon regard inquiet, il me dit aussitôt « Non, mon cher Courville, non, je ne viens pas vous avertir. Vous cherchez pour vous emmener dans quelque aventure dramatique. Rien de nouveau? Pas ce soir, pas encore. Ce qui veut dire bientôt? Nous verrons. Cela ne dépend pas de nous, bien entendu. Alors en attendant, puisque nous pouvons souffler un peu entre deux événements, je viens tout bonnement prendre mon café et bavarder avec vous. Bonne idée de votre part, dont je me félicite. Je ne vous gêne pas au moins. Pouvez-vous seulement imaginer cela? J'espérais, mais sans l'attendre, que quelqu'un, un de mes amis, viendrait. Ah, vous voyez, je vais être indiscret. Pas du tout, car cet ami, c'est vous. Oh, alors parfait. Et nous voilà, tout en fumant, moi, mon cigare, le roi des détectives, son éternelle cigarette, prenant notre café, nous voilà bavardant de mille choses, n'ayant surtout aucun rapport avec les affaires en train. C'était un principe absolu chez le roi des détectives, de ne jamais rien dire dans un endroit public, même à voix basse, de ce dont il s'occupait. Il affirmait que partout il y avait des oreilles. L'expérience démontra qu'il n'avait pas tort. Enfin, Martin Numa, ayant fumé sans arrêt cigarette sur cigarette, moi achevé mon cigare, leur vint de nous diriger chacun vers nos occupations. Martin Numa me fit quelques pas de conduite. Arrivé à l'angle de la rue de Richelieu, en me serrant la main pour le revoir, il me dit « Mon cher ami, si vous n'avez rien à faire demain matin, à l'arrivée de l'express PLM, faites-moi donc le plaisir d'aller à la gare de Lyon et de voir si l'ami, le camarade de régiment qu'attend cet excellent capitaine Alary, arrive réellement. Vous auriez l'obligeance de m'en informer. » Le lendemain matin, j'arrivai à la gare de Lyon comme si j'attendais l'avenue d'un parent ou d'un ami. Sur le quai, fumant une cigarette, marchait le capitaine Alary, que je reconnus bien tout d'abord. Dans notre promenade de long en long sur le quai, nous nous croisâmes plusieurs fois. Martin Numa, donc, savait aussi que le capitaine serait à la gare ce matin. Comment pouvait-il savoir cela? Comment savait-il qu'il attendait un ami, un camarade de régiment? Je ne m'en doutais nullement, mais je ne m'en étonnais point, car j'étais habitué à de plus fortes surprises que celles-là de la part de Martin Numa. Le train arriva, jetant sur le quai des flots de voyageurs qui se précipitaient vers les sorties, encombrés de cartons, de valises, de toutes sortes de colis. À la portière d'un compartiment de première s'agitait le képi d'un jeune officier. Sur le quai, le capitaine Alary leva son chapeau de même. Peu après, les deux amis se jetaient dans les bras l'un de l'autre et s'étreignaient cordialement. « Mon cher Alary, mon cher Bauda !» Tous deux étaient jeunes et forts, tous deux étaient bronzés au beau soleil d'Algérie. Le capitaine Alary se chargea d'une partie des menus colis, des valises à main de son ami le capitaine Bauda, et tous deux, rapidement, se dirigèrent du côté de la douane. À la douane, les deux amis parlementèrent avec le douanier, qui fit sur les malles des croix à la craie, pour donner l'exéate. Le capitaine Bauda, laissant à son brosseur le soin de faire charger sur les voitures les malles et les divers colis, monta avec son ami dans un taxi qui les emporta. « Mon cher Bauda, dit le capitaine Alary, selon tes indications, je t'ai retenu un appartement que j'ai fait meubler à peu près dans tes goûts. Je ne me suis pas basé pour cela sur notre installation du sud marocain, qui réellement, en tant que confortable, laissait plus qu'à désirer. Oui, un peu. Ainsi, tu auras une chambre à coucher, avec naturellement un lit tout autre que la touffe d'alpha ou de dix qui ne servait de somptueuse couchette de repos. Ça va. Tu auras même un petit fumoir, où tu ne risqueras pas de griller toi-même vers midi plus que ta cigarette. Bon. J'ajoute qu'il te sera facile de prendre un tub quand il te plaira, sans attendre durant des mois que Mahomet se décide à t'envoyer une averse. Allah soit béni. Enfin, j'espère que tu ne seras pas trop mécontent de mon choix. Je suis sûr, cher ami, que cet appartement me plaira, d'autant plus m'as-tu dit qu'il n'est pas loin de la maison de ta mère. À deux pas. Ce qui fait que je compte te voir chez moi aussi souvent que moi-même. Cependant, tout le long du trajet, Le capitaine Alary avait par moments des accès de tristesse et penchait la tête comme pris par un souvenir lourd. Cela faisait contraste avec l'humeur exubérante de son ami le capitaine Bauda, qui, tout heureux de revoir Paris, reconnaissait tout le long du parcours et les maisons et les rues et les boulevards et les cafés qu'il citait joyeusement. Il faisait même des signes à de jolies personnes que la voiture croisait, disait bonjour à tout le monde, saluait Paris, aurait voulu embrasser la capitale. Il parlait lui seul, racontait des exploits de camarades, riait des souvenirs des temps de danger dans le sud marocain, des heures de péril dont on rit quand elles sont loin, donnait des nouvelles des uns et des autres, changeait de conversation, s'amusait énormément et se livrait tout à la joie du retour. Comme il parlait tout le temps, qu'il chantait même en route, il ne s'aperçut pas tout d'abord de la tristesse et de l'humeur sombre de son ami. Il pensa que son exubérance ne lui permettait pas de placer un mot, et il ne s'en soucia pas autrement. Arrivé chez lui, il entra en chantant dans la maison, parodiant un air d'opéra, puis après la fameuse phrase de Faust saluant la demeure de Marguerite, il fit un bond, et comme s'il fût tombé en voltige sur la selle de son cheval, il alla, au bout de la chambre, se jeter sur son lit. « Moelleux, » dit-il, « moelleux, ça va bien. » Et le voici debout, au milieu de la chambre, dansant un pas de guerre indigène, poussant des you-you frénétiques au comble de la joie. Il enleva son dolman, son linge de voyage, passa dans son cabinet de toilette et se plongea dans une cuvette d'eau froide se mettant à singer des canards, des sarcelles, des flamants roses qui s'ébrouent le long des chottes, des sepkas, faisant même, non sans un certain art, le bruit caractéristique du chameau à l'abreuvoir. Puis enfin, sortit, s'entourant de serviettes, et tout en ayant l'air de s'éponger, se mit à esquisser la danse des mouchoirs, évoquant les souvenirs des heures joyeuses de la vie algérienne. « J'ai l'air d'un fou, je m'amuse comme un collégien. » Il me semble que je suis en vacances et que je fais des blagues dans la maison de mon père, au grand scandale de ma grand-mère et de ma vieille tante à héritage. Puis, regardant son ami assis dans un fauteuil, il remarqua alors son air d'abattement et le pli soucieux de son front, qui, loin d'être au diapason de sa gaieté bruyante, formait au contraire un contraste violent avec ce délire joyeux et tonitruant, ses facéties de sous-lieutenant. Il s'arrêta, surpris, et dit « « Ah, mon ami, tu me rappelles, ma foi, cette excellente tante qui s'effarouchait à chaque cabriole que faisait son neveu et le réprimandait en citant quelques maximes sévères, d'où la conclusion éternelle que je périrais sur l'échafaud si je continuais à mener cette vie de polichinelle en délire. » Inquiet, il demanda. « Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Quel souci as-tu ? Je ne t'ai pas vu comme cela là-bas, au Maroc, mon bon, mon cher, mon vieux camarade. » Quand tu ne recevais pas un coup de sabre ou un coup de fusil, histoire de nous faire marronner, puisque tu étais le plus brave, le plus chevaleresque, je te voyais parfois aussi, sauf quand on pensait tes blessures, faire autant de galipettes que le sacripant de neveu de ma tante. Et maintenant tu es sérieux et grave comme si tu avais avalé des pilules de marabout ou des pastilles de versets du Coran, au cours d'une vie fin solennelle chez quelque potentat de la terre européenne. Le capitaine Alary écoutait son ami, cherchait à répondre à ses plaisanteries, à se mettre au ton de sa joie bruyante. Il n'y parvenait pas et retombait dans son souci et dans sa tristesse. Le capitaine Bauda ne se souciait pas, pour le moment, de savoir quelle réponse lui ferait son ami. Pour lui, la tristesse était une chimère. Cela n'entrait pas en compte dans l'existence d'un capitaine bien portant qui arrivait d'Afrique avec l'humeur d'un conquérant, prêt à attaquer la bonne ville de Paris et à faire le pillage de tous les trésors qu'elle contient. « Allons tout de même déjeuner. Mène-moi au restaurant que tu voudras. » Ou, pour chasser le goût du couscous, du méchoui, du mouton et de tous autres plats dont nous nous sommes régalés, faute de mieux là-bas, nous puissions enfin dévorer cette bonne côtelette de l'amitié, avec, mon cher, autour quelques pommes frites parisiennes. » Il avait enfilé son dolman, mis son képi, il fit le geste du cavalier qui monte à cheval, et le voilà entraînant son ami Alary 4 à 4 par les escaliers. Ils se rendirent dans un restaurant des boulevards. Le capitaine Bauda déjeuna, ainsi qu'il le disait, comme s'il eût à combler un abîme stomacal. Après un bon café, après un excellent cigare, le capitaine Bauda, le képi sur l'oreille, la moustache retroussée et le monocle à l'œil, entraîna de nouveau son ami Alary. « Mon cher, la digestion se fait plus facilement en se promenant et en fumant un délicieux cigare. Allons voir les boulevards. » Il faut que je me rende compte si je sais marcher sur le trottoir aussi bien que sur le sable brûlant du désert. » Ils firent ainsi deux ou trois fois la promenade sur chaque trottoir, de la rue de Richelieu à la Madeleine et de la Madeleine à la rue de Rouault. Ils regardaient les boutiques. Le capitaine Baudard riait à tout le monde. Pour lui, Paris était en fête. Il voyait des illuminations dans tous les jolis yeux. Ensuite, ils rentrèrent chez le capitaine Baudard, voir si le brosseur avait enfin apporté les malles, pour que le voyageur pût commencer son installation de capitaine en congé, qui a besoin de refaire une santé nullement ébranlée et de reconstituer un organisme que le bulletin du major avait déclaré fortement épuisé, organisme en réalité doué d'une vigueur extraordinaire. Le capitaine Baudard était prompt, vif, franc et un peu emporté peut-être, mais il avait le cœur aussi vaillamment sur la main que la poignée de son sabre aisément entre les doigts. Camarade de collège d'Alary, ayant fait toutes ses classes avec lui, entré à Saint-Cyr en même temps, le candidat Alary avec le numéro 5 et le candidat Baudard avec le numéro 6, ils étaient sortis en même temps, le sous-lieutenant Alary avec le numéro 1 et le sous-lieutenant Baudard avec le numéro 2. On les avait envoyés en Afrique, dans le même bataillon. Ils s'étaient retrouvés, à deux ou trois mois de distance, dans le même cercle du Sud-Oranais, puis au Maroc. Le capitaine Alary avait essuyé le premier les coups de feu des Arabes. Quelque temps après, toujours imitant son camarade, le capitaine Baudard tombait à coups de sabre sur une bande de bédouins qui s'étaient révoltés et pillaient quelques fermes de colons éloignés. Quand il se retrouvait, après ces escarmouches, il se disait « À qui la première blessure ?» Ce fut, pour ne pas en perdre l'habitude, le capitaine Alary qui, le premier, fut blessé. Jaloux de cette gloire, le capitaine Baudard ne laissa pas passer plus de trois mois sans recevoir lui aussi un bon coup de lance à la cuisse d'un guerrier targué. Ils se retrouvèrent donc tous les deux sous la tente d'ambulance, l'un soignant l'autre, et se disant, comme pour leur blessure, « À qui le premier, maintenant, la croix ?» Il semblait de tradition que ce fût le capitaine Alary qui devait ouvrir la promotion. En effet, après une campagne admirablement conduite et extrêmement périlleuse, campagne qu'il fallait mener avec une bravoure folle et une prudence consommée, avec une vigueur implacable et une diplomatie des plus fines, après plusieurs engagements dans lesquels la troupe du capitaine Alary fut victorieuse, après deux citations à l'ordre de l'armée, le capitaine Alary, grièvement blessé, fut fait chevalier de la Légion d'honneur sur le champ de bataille. Le soir de cette journée magnifique et glorieuse, on vit arriver au camp français, traversant les lignes ennemies, un cavalier qui, tout d'abord, essuya les coups de feu des sentinelles avancées, qui hurlait comme un fou, et qui finit par tomber, son cheval s'étant abattu, épuisé, devant un poste avancé. Ce cavalier était tout bonnement le capitaine Baudard, qui venait prendre des nouvelles de son camarade, lui donner lui aussi son accolade fraternelle et fêter sa croix si noblement gagnée. L'année suivante, ce fut le capitaine Alary qui embrassait affectueusement son frère d'armes, fait chevalier de la Légion d'honneur. Et maintenant, depuis 6 mois, le capitaine Alary, fatigué lui réellement, avait dû rentrer en France. Le capitaine Baudard ne pouvait manquer de se sentir aussi très fatigué et d'avoir besoin d'un congé de convalescence. Et voilà encore une fois nos deux amis réunis à Paris, dans cet appartement de garçon, comme ils l'avaient toujours été là-bas, dans le désert, sous la tente de campement. Pour ne pas en perdre l'habitude, le capitaine Baudard hurlait comme un sourd après son brosseur, qui avait d'ailleurs très bien arrangé toute chose. Il lui criait son contentement aussi bien que son mécontentement. Mais crier pour lui était une façon de dépenser un peu de sa vigueur et de son trop-plein de vie. Le brosseur, habitué à ses tonnerres, à ses bombardements de cris, de jurons arabes, d'expressions kabyles et de hurlements de bédouins, ne se troublait en aucune façon. Toujours calme, avec un bon sourire de garçon dévoué, il disait « Ça va bien, mon capitaine, ça va bien, mon capitaine. » Ayant bien crié, bien tempêté, le capitaine Baudard s'arrêta tout à coup et dit à son brosseur « Tes parents sont à Paris ?»« Oui, mon capitaine. » « Tu as leur adresse, naturellement. »« Oui, mon capitaine. »« Pas loin d'ici, je crois ?»« Non, mon capitaine. »« Et tu n'es pas encore allé les voir ?»« Non, mon capitaine. »« Ah ça, tu es un animal. »« Oui, mon capitaine. »« Tu n'as aucun sentiment de famille. »« Comment ? Tu viens d'Afrique, du bout du monde. »« Tes parents sont à deux pas. »« Et tu n'es pas encore allé les voir ?»« qui m'a flanqué un bicot comme ça, un chacal de cette espèce. Mais, mon capitaine, tout a monté ici, tout a rangé, les mâles. Pas une excuse. Mais, mon capitaine, le service de mon capitaine et la consigne, pas une raison. Le capitaine Baudin croisa les bras sur sa poitrine et se campant devant son brosseur, qui s'était mis au garde-à-vous, lui dit « Ah ça, tu vas me dire que ton capitaine est une brute, un sauvage, et qu'il n'est pas capable de comprendre que quand un fils arrive de si loin, après avoir couru des dangers comme toi, après t'être conduit comme un bon lascar, si ce sacripant est allé embrasser son père, sa vieille mère, en laissant là les mâles, les balises, la consigne et tout le bazar pour remplir son devoir de fils, tu vas me dire que le capitaine Baudin lui collerait 4 jours de clous. Mais, mon capitaine, est-ce que tu crois que j'avais besoin de te dire ça? N'es-tu pas assez intelligent pour le comprendre? Il y a assez longtemps que tu me connais, cependant. Il y a assez longtemps que tu astiques mon dolman pour savoir que là-dessous il y a un cœur. » Le pauvre brosseur, toujours au garde à vous, essuyait l'avalanche de reproches, se sentait tout ému et ne trouvait à répondre que ces mots. « Mon capitaine, la consigne, la permission, les mâles, les bagages, tout le bazar. » Alors, voyant son air penaud et l'émotion du pauvre diable, le capitaine Baudin lui mit la main sur l'épaule fortement en lui criant « C'est bon, demi-tour, va rattraper le temps perdu, que je ne te vois pas jusqu'à ce soir, autrement tu auras affaire à moi. Bien, mon capitaine. Tu diras à ton père, à ta mère, que le capitaine Baudin est content de leur enfant. Allez, rompez. » Bien, mon capitaine. Merci, mon capitaine. » Comme le brosseur dépassait la porte, le capitaine Baudin lui cria « Halte, demi-tour, viens ici. » Ah, je vois que le séjour en Afrique t'a fait perdre la notion des choses. Comment? Tu reviens au pays? Tu vas retrouver ta famille? Tu vas retrouver tes amis? Et parmi tes amis, je compte tous les mastroquets du quartier. Tu vas célébrer ta gloire. Tu vas boire à la santé de tes parents, de ton capitaine, du capitaine Alary, des zouaves, du général, de l'armée française tout entière, presque homme par homme, et tu n'as pas le sou. Et tu t'imagines que le capitaine Baudin va laisser son brosseur sans un sou? Alors, lui tendant un billet de 100 francs, le capitaine Baudin lui dit « Tiens, mon brave, tu les as bien gagnés. Et maintenant, tâche de ne pas rentrer à 4 pattes ce soir. Voilà tout. Rompez !» Le brosseur ne savait comment remercier son capitaine. Il répétait « Mon capitaine, mon capitaine !» Il avait 2 grosses larmes qui roulaient sur sa peau tannée et brûlée. « Allons, va, mon ami !» lui dit le capitaine, en le poussant doucement jusqu'à la porte. « Bah !» Puis il revint au capitaine Alary. « Ah ça! Est-ce que tu vas garder longtemps cet air lugubre ? Qu'a-t-il ? Raconte-moi ça. Ce n'est pas naturel. Je n'ai jamais vu un Africain avoir une mine d'enterrement pareille. » Le capitaine Alary lui dit alors « Mon cher, j'ai une révélation à te faire, très grave. Oh oh, tu es amoureux ?» Le capitaine Alary eut un mouvement brusque et son visage se couvrit d'une pâleur soudaine. « Non, répondit-il, il s'agit de tout autre chose, autrement grave. » Le capitaine Baudin, inquiet, s'approcha de son ami et lui dit « Parle, je suis là pour te seconder en n'importe quelle aventure. Y a-t-il un coup d'épée à donner? Une balle à faire cadeau à quelqu'un ou à recevoir? Je suis là. Non, j'ai commis un acte dont aujourd'hui je reconnais la gravité et qui me peine. C'est un acte en somme déshonorant, dans lequel malgré toi je t'ai mêlé. » Le capitaine Baudin ouvrait de grands yeux en entendant ces paroles. « Mon cher, reprit le capitaine Alary, j'ai commis cette indélicatesse de me servir de ton nom pour m'introduire dans une maison dont la porte m'était fermée. Que me racontes-tu là? J'avais à voir quelqu'un qui m'eût fait repousser par ses domestiques et qui devait t'accueillir, toi, à bras ouverts. Explique-toi. J'ai donné ton nom. Je suis entré à ta place. À ma place, chez qui donc? Or, le soir même où j'avais commis cet acte, cette personne se trouvait assassinée avec sa fille aînée. Tu veux parler du banquier Castanier, de sa malheureuse fille Irma? Précisément. En effet, ma famille était très liée avec celle du banquier. Monsieur Castanier m'a toujours témoigné la plus grande affection. J'étais reçu chez eux comme un fils. Je le savais. C'est pour cela. Et tu t'es servi de mon nom pour pénétrer chez eux? Tu as fait vraiment là un acte d'indélicatesse que je ne puis qualifier. Il demanda « Comment tu fais ? car enfin on me connaît. Les employés, les domestiques me connaissent parfaitement, savent qui je suis. Il n'aurait pu te prendre pour moi. Il a donc fallu user d'un stratagème. Je ne comprends pas. » Avec peine, le capitaine Alary répondit : « Je me suis servi d'une de tes cartes. » « Comment d'une de mes cartes? Comment l'avais-tu? Où l'as-tu trouvée ?»« Je l'ai prise un jour chez toi dans ton portefeuille, là-bas. » »« Alors c'est en quelque sorte un vol que tu as commis, absolument. C'est une action indigne, que l'on ne saurait trop blâmer. » Et se montant peu à peu, le capitaine, criant, marchant à grands pas et tapant sur les meubles, ajouta « Ainsi donc j'arrive en France, et je vais me trouver malgré moi compromis dans une affaire pénible, un crime odieux. » Mon nom va être jeté en pâture à la curiosité des journalistes, à la malignité des foules. Et l'on se demandera comment il se fait que le capitaine Baudin puisse être pris dans cette affaire. Et l'on va ébaucher des romans biscornus, invraisemblables. Car il y a eu assassinat d'une jeune fille, le pillage d'une caisse. Quoi que je fasse, quoi qu'on puisse dire au tribunal, bien qu'on me déclare innocent, personne ne voudra me croire, d'après ce proverbe ridicule, qu'il n'y a pas de fumée sans feu, que je n'ai pas trempé dans ce drame épouvantable. Et voilà une affaire qui va me suivre partout durant toute ma carrière, qui me comprenait absolument et grâce à toi. Je te demande pardon. Mon cher, je ne te comprends pas. C'est de la dernière imprudence. C'est plus qu'une mauvaise action que tu as commise. Tu n'es excusable en rien du tout. Je t'avoue qu'en ce moment, si le souvenir de tant de jours passés ensemble ne pesait pas sur ma mémoire et sur mon cœur, je ne sais pas ce que je t'aurais fait. Bouddha, je t'en prie. Je ne puis en ce moment devant cet acte odieux que te retire mon amitié et te prier de ne plus me reconnaître quand tu passeras dans la même rue que moi. C'est fini entre nous. » Le capitaine Alary s'est élevé et dirigé vers la porte. « Mon cher, dit-il tristement, je reconnais mes torts, et la première chose que j'ai faite à ton arrivée, c'est de t'en faire part. » Douloureusement, il ajouta « Mais je croyais que mon vieux frère d'armes, que mon camarade me demanderait pourquoi j'ai fait cela, m'aurait entendu, aurait compris, et m'aurait plaint. Il n'en est rien. C'est le cœur brisé que je me retire, en te disant que, puisque tu crois que je t'ai offensé à ce point, je suis prêt à te faire toutes les réparations qui te sembleront nécessaires. Adieu. » Le capitaine Baudin n'entendit même pas ces dernières paroles, et emporté, violent comme il l'était, il cria simplement « Adieu !» Et sur son ami, il ferma la porte avec fracas.